Bonsoir, comment allez-vous? On dit que la première personne que voit un mammifère en naissant va le marquer pour le restant de sa vie. J'ai l'impression que la première personne que j'entends le matin va me marquer pour toute ma journée. Mardi, c'était Rachida Dati dans la matinale. Boum! Elle m'a envoyé une bonne dose d'agressivité en tirant un boulet rouge sur la maire de Paris. Je ne suis pas là pour dire si sur le fond elle avait tort ou raison, je n'en sais rien. Je sais en revanche que j'ai eu l'impression de tomber dès le réveil dans un baquet de vinaigre, puis d'enfiler une armure de métal à même la peau et de me charger d'une mitraillette de 20 kilos avant de me lancer sur le champ de bataille de la journée où la guerre faisait déjà rage. Madame Dati n'est pas la seule en mode combat, surtout en politique. On pourrait même dire « c'est de bonne guerre ». Je me demande si ça existe, une bonne guerre entre humains. Pourquoi ne pouvons-nous pas exposer des idées sans charger ? Quand je vais chercher du pain, le boulanger me donne du pain. Il ne me donne pas une claque quand j'arrive, au prétexte que d'après lui, le boulanger d'en face est mauvais, qu'il crache dans le pétrin et ne se lave pas les mains. À propos de laver les mains, je me dis que l'énergie que je mets à me débarrasser de l'agressivité des humains, je pourrais peut-être la mettre à repousser les virus. Nous pourrions arrêter de nous agresser entre humains puisque la Covid s'en charge déjà. À l'heure où elle est venue à France Inter, ce matin-là, peut-être que Rachida a traversé la Seine, au moment où le soleil inondait de roses et d'oranges le ciel et le fleuve. L'a-t-elle vue ? Voir la beauté du monde, ce n'est pas fuir les problèmes, c'est prendre des vitamines pour les maîtriser.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 7 ans, je voudrais savoir ce que c'est exactement les vitamines. Merci, au revoir.
Alors, docteur Jean-Marie Bourg, Léa, demande ce que c'est exactement que les vitamines. On se le demande tous, c'est un mot qu'on emploie souvent et finalement, on ne sait pas ce que c'est, nous, les profanes.
Oui, il est passé dans le langage courant et Léa a parfaitement raison de se poser cette question. Qu'est-ce que sont les vitamines ? Les vitamines, en fait, ce sont des substances dont on a besoin obligatoirement pour que notre corps fonctionne bien et que nous devons trouver dans l'alimentation, car nous sommes totalement incapables de les fabriquer. Ces substances, nous devons les trouver en petites quantités. Ces quantités, elles sont presque microscopiques, puisque pour certaines d'entre elles, c'est le milligramme, voire pour la vitamine D, par exemple, qui permet au calcium d'être capté par l'intestin et ensuite à ce calcium d'être fixé sur l'os. Il nous en faut quelques microgrammes par jour, c'est-à-dire des millièmes de milligrammes. Ces vitamines, elles occupent des places très importantes dans le fonctionnement de tout notre corps, y compris dans le fonctionnement de notre cerveau, car elles permettent aux machineries de fonctionner. Juste pour te donner un exemple, la première des vitamines qui a été découverte historiquement, que l'on appelle la vitamine B1, cette vitamine B1, elle permet à notre corps de produire de l'énergie à partir des glucides, des sucres que nous mangeons. Quand, Léa, tu manges du pain, n'oublie pas que, en fait, pendant la matinée, exactement la moitié du morceau de pain que tu as consommé ne va servir uniquement qu'à faire fonctionner ton cerveau, à condition qu'il y ait de la vitamine B1 à disposition, puisque cette vitamine B1 va participer à la machinerie qui va transformer le sucre du pain en énergie utilisable pour le cerveau, pour qu'il fonctionne. Et s'il n'y a pas assez de production d'énergie dans le cerveau, c'est l'hypoglycémie, c'est la fatigue. Quand tu es en classe, Léa, et que ton petit déjeuner a été de mauvaise qualité nutritionnelle, eh bien, c'est le coup de fatigue en milieu de matinée que tu appelles le coup de pompe, comme tout le monde.
On trouve ça où, docteur Jean-Marie Bourg, de la vitamine B1 ?
La vitamine B1 se trouve dans nombre d'aliments, notamment dans les œufs, mais aussi dans beaucoup de végétaux, en particulier dans les végétaux, dans le riz complet. Il y en a un peu dans le pain complet.
Le docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie nationale de médecine, ancien directeur des unités de recherche INSERM de neurotoxicologie puis de neuropharmaco-nutrition. Il a écrit, entre autres, les programmes pour bien nourrir votre cerveau chez Odile Jacob. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants téléphonent, posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé si le verre, la matière est écologique, pourquoi la France s'appelle la France, et si les paysans, éleveurs, ont des chouchous parmi les animaux. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lola et j'aimerais savoir
pourquoi l'anglais est la deuxième langue principale que tout le monde parle. Merci.
Lola, pourquoi l'anglais est la deuxième langue principale que tout le monde parle, dis-tu ? Stephen Clark, avez-vous une idée là-dessus ? Vous êtes un écrivain britannique vivant à Paris, donc vous parlez et l'anglais et le français. Et vous avez écrit Elisabeth II, où l'humour souverain s'est édité chez Albin Michel. L'anglais est la deuxième langue principale que tout le monde parle, demande Lola.
Oui, c'est en partie, c'est très historique. C'est en partie grâce à l'Empire britannique. Ben, nous, pendant le 18e, 19e siècle, on a colonisé l'Afrique et l'Inde en emportant notre langue avec nous. Depuis, les Américains, avec leur business, le commerce international, ont aussi fait un peu pareil culturellement. Donc, l'anglais a un peu colonisé le monde. Je pense qu'à l'avenir, peut-être que le chinois va faire un peu pareil. Mais oui, l'anglais a conquis le monde. Mais ce n'est pas la seule raison, je pense. C'est aussi, il faut aussi dire que l'anglais, à la base, c'est une langue bâtarde, une langue qui a évolué. C'est pas une langue figée. Ça a évolué entre le 11e et le 14e siècle. Et ça évolue encore, bien sûr. Mais à l'époque, l'Angleterre était divisée entre les Normands, qui parlaient une sorte de français, et les Anglo-Saxons, qui parlaient une sorte d'allemand. Et les deux langues se sont mélangées à travers les siècles, mais de façon assez fluide. Et donc, c'était une langue qui était faite pour que deux communautés qui vivaient ensemble se communiquent. Donc, c'est une langue assez naturelle. C'est une langue, comment dire, facile. Il y a des règles, mais c'est des règles d'usage. C'est pas des règles vraiment figées, contrairement au français, qui est, je sais pas comment vous faites quand vous avez une phrase du genre « Mangez les pommes de terre que je vous ai préparées ». Est-ce qu'il faut « E-E-S » et « S » ou « Dieu sait » C'est hyper compliqué. Nous, on n'a absolument pas ce problème. Le grammaire anglais, un nom peut devenir un verbe, un adjectif peut devenir un nom. C'est hyper fluide, donc ça aide tout le monde à l'apprendre. On peut le parler correctement et c'est acceptable pour nous. On accepte beaucoup les accents, on se moque. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Français se moquent des accents belges et québécois et suisses. Quand, si vous voulez que quelqu'un parle votre langue, ne vous moquez pas de lui. Et nous, on accepte plus ou moins tous les accents. On a aussi l'avantage de nos jours, ce n'était pas toujours le cas, mais depuis quelques siècles, on n'a pas le « tu » et le « vous ». Nous, tout le monde est « you ». Donc, ça, encore une fois, ça élimine des frontières. Moi, quand j'ai travaillé dans une entreprise française, c'était horrible de me souvenir si je disais « tu » à quelqu'un ou « vous » à quelqu'un. Si j'ai rencontré un groupe de personnes dans le couloir, il y en avait que j'appelais « tu », d'autres que j'appelais « vous ». Il y avait des chefs qui m'appelaient « tu », mais moi, il fallait que je leur dise « vous ». Des fois, je me cachais dans un placard juste pour éviter le problème. C'est terrible. En anglais, on n'a pas ce problème. Donc, en fait, l'anglais facilite la communication. Et c'est pour ça que les gens l'apprennent assez vite. Et c'est une langue qui s'adapte tout le temps. Il y a des nouveaux mots tout le temps. On n'a pas l'Académie française qui doit réfléchir pendant un siècle avant de dire si un mot existe ou pas. Nous, ça existe, c'est l'usage. Donc, l'anglais est facile, en fait. Et nous, on a des mots de partout. On a des mots indiens, bungalow et tout ça, c'est un mot indien. On a des mots de toutes nos anciennes colonies, de nos jours, n'importe quel mot, on l'adapte et ça devient tout de suite de l'anglais. Et c'est vrai qu'on crée des nouveaux mots absolument tout le temps, sans arrêt, et qui passent dans la langue officielle sans problème.
C'était Stephen Clark, je sais que je prononce mal son nom. Si vous voulez que quelqu'un parle votre langue, ne vous moquez pas de lui, c'est tellement vrai. Mais en même temps, les accents, c'est tellement rigolo.
Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Take it. Take it. Take it.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume en la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como pica. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida, abrazo, esa mami es una G.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tiene que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Te que, te que, te que, te que, te que.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
C'était Rosalía, star absolue en Amérique latine, alliée avec le rappeur américain Travis Scott pour ce titre Tekken.
Les petits bateaux sur France Inter.
La sociologue Jocelyne Porcher a écrit de nombreux livres dont vous trouverez les références sur le site des petits bateaux. Le dernier, Cause animale, cause du capital, est aux éditions Le bord de l'eau. Mais j'ai envie aussi de vous parler de celui-ci un peu plus ancien, Une vie de cochon aux éditions La Découverte. C'est une petite fille qui décrit l'élevage de porcs où sa mère travaille.
Bonjour, je m'appelle Estelle. J'aimerais bien savoir si les paysans ont des chouchous parmi les animaux qu'ils élèvent. Est-ce que, par exemple, ils préfèrent une brebis à une autre? Au revoir, merci.
Bonsoir Estelle. Jocelyne Porcher, vous en avez élevé des animaux. Votre métier, c'est maintenant d'être sociologue et directrice de recherche à l'INRAE. Que répondez-vous à Estelle?
Eh ben, salut Estelle, je dirais tout de suite que oui, les paysans ont très souvent des chouchous. Il peut y avoir des raisons différentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un système d'élevage, il y a des animaux et des humains qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble. Et c'est comme dans le travail, en fait, avec les collègues. Il y a des collègues qu'on préfère à d'autres. Avec les animaux, c'est pareil. Parce que dans le travail, on les voit toute la journée. Alors évidemment, on doit s'entendre avec tout le monde. Mais il y a des préférés avec qui les éleveurs discutent plus, font plus attention à elles, etc. Et on peut préférer un animal, par exemple, parce qu'on l'a élevé au biberon, ou parce qu'il a été malade et qu'on a réussi à le sauver, ou parce qu'il a un caractère qui nous plaît, ou parce qu'il a une tête marrante. Il y a aussi la question de la meneuse qui est un peu différente de la préférence, mais qui est importante. Par exemple, dans un troupeau de brebis, il y a ce qu'on appelle une meneuse, qui est une brebis qui fait l'interface entre le berger et les autres brebis, et qui conduit le troupeau.
Il y a toujours ça?
Oui, et c'est souvent la plus âgée. Et c'est elle voilà, qui sait communiquer avec le berger, qui fait passer le message aux autres brebis.
Déléguée de classe.
Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que les animaux préférés savent qu'ils sont préférés. Par exemple, je connaissais un éleveur qui avait un troupeau de vaches. Et puis c'est un éleveur qui n'était pas patient du tout. Et les vaches faisaient vraiment attention à ne pas se faire, à pas le contrarier pour ne pas se faire attraper. Mais il y en avait une, en fait, qui faisait à peu près tout ce qu'elle voulait. Et on s'est aperçu que c'est parce qu'elle était la préférée. Et donc, tout ce que les autres faisaient attention de ne pas faire, elle le faisait. Par exemple, passer une barrière dans un sens alors qu'il fallait la passer dans l'autre. S'il y avait une vache qui faisait ça, elle se faisait vraiment engueuler, alors qu'elle, il faisait comme s'il n'avait pas vu ou il disait rien. Donc, et la vache le savait. Et elle allait au bout de ce privilège.
Elle se permettait tout.
Voilà, elle se permettait tout. Et puis, s'il y a des animaux qu'on préfère, il y a aussi des animaux qu'on n'aime pas, ou qu'on n'aime pas beaucoup, ou qu'on aime moins. Et ça aussi, c'est différent. Il y a des éleveurs qui aiment bien les animaux dociles, bien gentils, qui font pas de bruit. Puis il y en a d'autres qui aiment bien les bêtes, qui font des bêtises au contraire. Parce que c'est marrant, pas de très trop grosses bêtises quand même, mais des bêtises. Ça montre qu'elles ont du caractère. Parce qu'il y a une espèce de relation d'identification entre les humains et les animaux. Mais bon, faut pas non plus faire des trop grosses bêtises, sinon ça ferait des problèmes.
Il y a quand même une envie de plaire.
De la part des animaux?
Oui.
Oui, oui. Oui, les animaux tendent à... Enfin, parce qu'on est dans le travail, justement, donc il faut travailler ensemble. C'est comme vraiment des humains dans un espace de travail. Il faut qu'on travaille ensemble. Donc il faut au minimum qu'il y ait l'estime, le respect, etc. Et plus on s'entend bien, et mieux ça vaut, quoi. C'est un espace de travail. La relation entre un éleveur et ses animaux, ça se fait dans un espace de travail.
C'est affreux, cette histoire de chouchou, c'est d'une injustice horrible. Vous savez, c'est l'histoire de Joseph dans la Bible. Le jeune Joseph, qui est le chouchou de leur vieux père, se permet tout. Il exaspère les aînés à un point qu'ils décident, les aînés, de se débarrasser du jeune garçon en le précipitant au fond d'un puits, puis finalement, ils se ravisent et le vendent à une caravane qui passait par là. Des animaux auraient-ils fait ça?
Je m'appelle Lucien, j'ai 6 ans. J'aimerais savoir pourquoi la France, nous l'avons appelée la France. Merci, au revoir.
Tu t'exprimes très bien, Lucien, pourquoi nous l'avons appelée la France. Didier Le Fur, historien.
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une légende et il y a une réalité. Mais la légende va nourrir la réalité et la réalité va nourrir la légende. Alors, la réalité, c'est tout simplement parce que le mot France vient du peuple franc, c'est-à-dire libre de taxes par rapport à l'Empire romain.
Comme le mot franchise.
Exactement. Sous les Carolingiens, puisque Charlemagne va conquérir à la fois ce qui est aujourd'hui la France, l'Italie et l'Allemagne, tout ce peuple-là, réuni sous un même empire, va s'appeler les Francs. Et à la mort de Charlemagne et à la division de son héritage avec ses fils, eh bien, là, on va faire trois Frances. La France orientale, qui est la Germanie, la France du milieu, qui va être la Lotharingie, ou ce qui correspond après la vallée du Rhône jusqu'au milieu d'Italie, et la France occidentale, qui est le berceau de notre France à nous. Donc, ces trois Frances, ces trois Francia, c'est indifférencié. Et c'est simplement à partir du XIe siècle, quand les Allemands vont restaurer l'Empire de Charlemagne, et qui vont faire ça à partir de leur base de la Francia orientale, ou orientalis, en conquérant la Lotharingie en même temps, c'est-à-dire que sur les deux tiers de l'héritage de Charlemagne, ils vont créer un nouvel empire, l'Empire germanique. Et donc, pour se différencier des Français, ou de la Francia orientalis, ou des autres Francs, ils vont reprendre le terme latin de Germain. Et donc là, on va avoir un peuple germain et un peuple franc. Et au même moment, en France, évolue l'idée du mot de France à adapter à ce territoire nouveau qui s'identifie de fait par l'existence de l'Empire auquel ce royaume n'appartient pas. Et ça se généralise à partir du XIIIe siècle. Hein. Le roi de France, le royaume de France, à partir de Saint-Louis, tout le monde en parle. Alors ça, c'est la réalité. Ensuite, la légende, c'est la légende de Troie. Rome, selon la légende, aurait été fondée par les Troyens exilés menés par Énée, Romulus et Rémus. Eh bien, les Français, à partir du 7e siècle, on dit, bah oui, nous aussi, on a eu des origines troyennes. Eh bien, voilà. Donc, on a prétendu que Hector avait eu un enfant avec une Amazone, qui se serait appelée donc Francus ou Francion, qui, après la destruction de Troie, aurait amené tous ses soldats le long du Danube, se serait installé là où les Francs saliens et autres se seraient libérés de la puissance et de l'impôt romain, et après auraient envahi la Gaule. Voilà, c'est une manière de trouver des origines glorieuses à un peuple qui essaye de se structurer. Et donc l'idée du mot, à la fois d'une origine troyenne, mythique, mais jolie parce qu'elle est égale à celle de Rome et de la puissance de l'Empire romain, en mélangeant aussi avec la réalité d'une construction d'un État et d'un royaume de plus en plus puissant, eh bien, on arrive à faire l'idée d'une France glorieuse et digne de dominer le monde, parce que c'était le but, en fait, toutes ces inventions. Et c'est là où on commence à créer aussi un sentiment national.
Merci Didier Le Fur, historien. Ses livres, à lui aussi, sont sur le site des Petits Bateaux. Dis donc, la Lotharingie, c'est pas le cabillaud à papa, hein, c'est une région. Allez voir sur Internet, vous la verrez.
Sur un écran géant,
Girl, c'est le groupe Chercher le garçon, c'est la chanson extrêmement entêtante des années 80, de l'année 80 d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 11 ans, j'aimerais savoir si le verre est une matière écologique. Merci pour votre réponse, au revoir.
Bonjour Mila. Wilfried Alain, vous êtes souffleur de verre, de père en fils, souffleur de verre à la flamme. Vous nous avez apporté des sabliers en verre vraiment jolis. Alors, est-ce une matière écologique, demande Mila ?
Quelle belle question.
Ah, ça vous plaît ?
Ah, moi j'aime beaucoup. C'est une question qu'on me pose très régulièrement parce qu'il y a des dilemmes. La réponse ne peut se faire que en pesant le pour et le contre. Comme toutes les matières, on peut pas être tranché comme ça. Donc je vais vous expliquer ma vision du contre d'abord. Le verre, pour être fabriqué, on utilise du sable. Le sable est une matière naturelle extraite de la terre et qui est en surexploitation très largement. Pas forcément à cause que du laverie, mais il y a aussi la construction. Et on utilise aussi du verre dans la construction. Donc le sable, aujourd'hui, on en consomme beaucoup plus que la terre ne peut nous en fournir. Donc là, c'est un vrai problème et un vrai défi écologique à relever, d'économiser le sable. Ensuite, pour fabriquer le verre, il faut le chauffer extrêmement fort. C'est-à-dire que une fois qu'on a mélangé le verre avec les autres composants, il faut le chauffer à 1600 degrés pour obtenir la vitrification. C'est-à-dire que le verre et ses autres composants vont se transformer en verre à 1600 degrés. C'est une industrie qui nécessite énormément d'énergie. C'est astronomique. C'est l'une des industries les plus consommatrices d'énergie avec la métallurgie. Et donc ça, c'est un deuxième point négatif. Consommation d'énergie, soit électrique, soit de gaz. Donc électrique, bah, il y a le nucléaire derrière, et le gaz, c'est émetteur de CO2, c'est des problèmes. Tout ça, ce sont deux gros problèmes vraiment qui pèsent sur le verre. Toutefois, il y a des avantages dans le verre qui sont indéniables. Pour un côté alimentaire, le verre est transparent. Donc on voit dans son bocal si le bocal il est propre. On voit si il nous reste beaucoup de riz dedans ou pas. Il n'y a pas de transfert, c'est un matériau pur, sain, qu'on connaît depuis des millénaires. Vous n'avez pas de transfert de matière vers le contenu.
Il ne dégage pas de choses toxiques si on met des aliments dedans.
Vous mettez un cognac dans une bouteille en verre, dans 3000 ans vous n'êtes plus là. Le cognac, s'il ne s'est pas évaporé, il est toujours là, mais il n'a pas été contaminé. Il y reste cognac. On peut le laver à l'eau, au vinaigre, on peut le laver, il n'y a aucun problème avec le verre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le casser, parce que c'est une matière qui casse là où le métal, par exemple, plie. C'est une matière très solide, hein, faut pas croire, le verre est une matière très solide. Si vous la prenez en bloc complet, vous avez du mal à le casser au marteau. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dur, le verre.
On ne pollue pas.
On ne pollue pas, exactement.
Quand
pourquoi? Parce que c'est un verre, le verre est une matière qui est 100% recyclable et à l'infini. Vous cassez une carafe, il y a un kilo de verre cassé par terre. Si vous le mettez dans un circuit de recyclage valable, vous récupérez à la sortie un kilo de verre. Et ça, autant de fois que vous le voulez. Et ça, c'est une matière, vous n'avez pas beaucoup des comme ça. Ça, c'est vraiment très très important. Et c'est le point qui va relever tout le négatif derrière. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une quantité de verre, et je pense qu'on l'a maintenant sur Terre, établi, à partir du moment où vous le cassez, vous recyclez. Mais vous n'avez plus besoin d'extraire plus de sable. Vous avez besoin simplement de recycler et d'avoir un circuit de recyclage mondial qui soit efficace. Un autre point intéressant, c'est que si jamais vous êtes un méchant être humain et que vous jetez votre canette de bière en verre dans la nature, vous ne polluez pas la terre. Vous ne polluez pas l'eau. Le verre va se transformer en caillou, à force, va se casser. Il va continuer à exister dans la nature. La nature ne va pas digérer le verre. Ça, c'est vrai. Le verre n'est pas une matière naturelle, mais il va pas non plus polluer les sols. Ça reste du verre, ça va être un caillou. D'ailleurs, il y a une plage aux États-Unis. Si vous tapez sur Internet plage de verre aux États-Unis, vous allez avoir une plage de galets de verre. Alors, c'est à l'origine une pollution. C'est des gens qui jetaient de leur verre sur cette plage-là, mais c'est devenu une plage multicolore de milliers de petites perles de verre. Le morceau de verre s'est érodé, c'est devenu des petits cailloux ronds, comme des galets, et c'est une plage entièrement de verre. Vous avez des photos magnifiques sur Internet, mais à l'origine, c'est une pollution humaine. Mais c'est magnifique.
C'est une pollution non toxique.
Non toxique.
Vous trouverez le magnifique et passionnant site de Wilfried Alain sur le site des Petits Bateaux. L'accumulation. La désorganisation et le bazar fatiguent, agacent, font perdre du temps. Si vous n'avez ni le temps ni l'envie de ranger, ce guide est fait pour vous. J'ai pris ces phrases écrites au dos de ce livre sorti le 18 juin dernier comme un appel. J'arrête de vivre dans le désordre de Caroline Glaise. Ce livre n'a pas, comme je l'espérais, changé ma vie, mais j'ai appris des trucs pratiques, complètement méprisés par ceux qui font faire le boulot par les autres. Par exemple, les joints de douche, ça se frotte à la brosse à dents, la vieille, avec du citron et du gros sel. Par exemple, une éponge de cuisine, ça se change tous les 15 jours. Et entre-temps, on peut la mettre dans le lave-vaisselle comme une assiette. Ben oui, on lave ce qui lave. Les dentistes vont bien chez le dentiste. D'ailleurs, je ne devrais pas dire l'éponge de la cuisine, mais les éponges de la cuisine. Il en faut plusieurs, de couleurs différentes. Une juste pour les verres, une autre pour le gros crade, comme le fond de l'évier par exemple. Elle parle également de trucs que je ne savais même pas que ça se nettoyait. Les joints en caoutchouc du réfrigérateur. Toujours dans la cuisine, Caroline Glaise suggère de vider le tiroir à ustensiles. Vous savez, celui des ouvre-boîtes, tire-bouchons, piques à bigorneaux et autres économes. On vide le tout dans un carton pendant une semaine et on ne remet dans le tiroir que les ustensiles dont on se sert et on se débarrasse des autres. Vous êtes gentil, vous ne m'écrivez pas un mail d'insulte au mois de décembre parce que je vous ai dit de jeter votre couteau à huîtres en septembre. Je ne fais que relayer l'info de ce guide de rangement édité chez Erol. Ces petits bateaux sont à réécouter ou à podcaster par franceinter.fr. Élise Christophe et Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard, Marjorie de Voucou, Noël Bréham. Nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain à partir de 19h30.